Khamsa dembo, khamsa tay, khamsa dembo, khamsa tay, khamsa dembo, khamsa tay, khamsa dembo, khamsa tay, khamsa dembo, khamsa tay.
Khamsa dembo, khamsa tay est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Cœur Leïti, la maison de l'oralité et du patrimoine. Écoutez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de notre Sénégal. Écoutez-moi vous faire voyager dans les grands faits de gloire. Faire revivre la mémoire de ses enfants, filles et fils, dont l'image parlera pour tous les autres. Notre histoire est belle et mérite d'être connue. Je veux l'écoute des oreilles de votre cœur. Nous sommes l'histoire. Nous avons une histoire. Alors connaissons notre histoire. Khamsa dembo, khamsa tay. Connaître son histoire, connaître son présent. La grandeur d'un peuple est dans la mémoire féconde de ses enfants. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Ndiadia Ndiaye, fondateur de l'Empire du Djolof. Ndiadia Ndiaye, fils de Boubacar Ben Oumar et de Fatoumata Sall, est le fondateur de l'Empire du Djolof au XIIIe siècle. Il est aussi considéré comme l'ancêtre tutélaire des Wolof. Je vous raconterai son épopée. Après l'éclatement de l'Empire du Ghana, Boubacar Ben Oumar, son père, d'origine almoravide, aurait suivi le fleuve à la tête d'une faction. Avant de venir s'installer au Fouta, il s'est établi précisément à Guédé, un des villages les plus anciens du Fouta Toro. Reconnu homme de savoir, grand adepte de l'islam qui était une religion nouvelle dans le pays, il a acquis une grande renommée. Et pour l'intégrer à la communauté, on lui donna en mariage une des filles du terroir, Fatoumata Sall, fille de l'Am Toro, Abraham Sall. Quand Fatoumata Sall eut une grossesse avancée, Boubacar Ben Oumar partit en expédition contre les Maures à Shingeti. Il revint avec de graves blessures. Sentant qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre, il se confia à son épouse et lui dit ceci. Je le cite. « Tu portes un enfant qui, je pense, sera un garçon. À sa naissance, tu lui donneras le nom de Muhammadou, notre prophète. Si tu dois te remarier, je te demande de choisir un homme libre, d'une belle naissance, un homme de religion aussi et d'honneur. » Voilà ce que Boubacar Ben Oumar dit à sa femme avant de mourir. Quelque temps plus tard, Fatoumata Sall donna naissance à un garçon. On l'appela Muhammadou. Il grandit avec sa mère. Cette dernière décida de se remarier avec un homme qui répondait aux recommandations laissées par son défunt mari. Et cet homme s'appelait Barik. À la suite de ce remariage, Muhammadou Ben Oumar quitta le foyer familial. Il prit la résolution de s'exiler. Il entra dans le fleuve. On crut pendant longtemps qu'il était mort. Mystère de la nature, il passait ses journées dans le fleuve et ses nuits sur la terre ferme. Il apparaissait de temps à autre sur la berge du village riverain, étonnant les gens qui commençaient à en parler. On le vit dans plusieurs localités. On le vit à Foum, on le vit à Ndiawar et dans plusieurs autres localités. On le vit à Fanaï et à Walalde. Il continuait à descendre le fleuve. Ainsi, à la moyenne vallée, il continuait à descendre le fleuve. Ainsi, de la moyenne vallée, il était passé au Wallo, de la basse vallée du fleuve Sénégal. Quand il arriva au niveau de Maguen Boy, entre Saint-Louis et Rosbecho, il fit une apparition. Khamsa dembo, khamsa tay. En ce temps-là, les femmes allaient toujours pêcher dans le fleuve et se disputaient souvent lors du partage de poissons. Il apparut un jour et fit un partage équitable, partit, mais ne prononça pas un seul mot. Les femmes racontèrent à leur retour au village ce qui s'est passé et c'était devenu le sujet d'actualité. Et on entendait les gens dans le village dire « Quelque chose est apparu dans le fleuve. Il a une apparence humaine. Il est très chevelu, mais il ne parle pas. » Tout le monde en était étonné. Les anciens se concertèrent. Un certain Atuman Bey était le chef du pays. En ce temps-là, Il y avait parmi les notables de la localité un certain Naïb Mbeng et un certain Bawan Sarr. Un jour, il apparut, on le prit et on le ramena au village. Je parle bien de Mohamedou, fils de Fatoumata Sall, que les villageois avaient vu, mais dont ils ne savaient rien de l'identité. Il ne voulut point parler. Les gens étaient cependant sûrs que c'était un être humain, malgré son abondante chevelure. Son long séjour dans le fleuve lui avait peut-être fait oublier le langage humain. On demanda aux femmes d'imaginer plusieurs techniques pour le faire parler. Une d'entre elles a demandé d'affamer l'invité pour le faire parler. Alors pendant 3 jours, on le fit jeûner. On le sortit dans la cour. La femme mit une marmite sur le feu, mais au lieu de mettre 3 grosses pierres en bas, il mit 2 supports. La marmite tombait à chaque fois. Et à un moment, on entendit l'invité dire « Kaloj Tati », ce qui veut dire en poulard « 3 supports ». « Mets 3 supports, madame, et la marmite tiendra », la première parole de cet invité. Les anciens, qui n'attendaient qu'un mot, dépêchèrent alors des émissaires vers le Sine. Car en ce temps, il y avait le fameux Maïssa Wali John, très versé dans les sciences occultes. Il était très réputé. Ils décidèrent donc de requérir aux lumières de ce dernier concernant l'énigme à laquelle ils étaient confrontés. Les émissaires arrivèrent chez Maïssa Wali John, le saluèrent et ils lui dirent « Un être est apparu dans le pays. Il a une apparence humaine, il est très chevelu, mais il ne veut prononcer un mot. » Finalement, les femmes ont réussi à le faire parler et il a juste dit « Kaloji Tati ». Maïssa Wali John rit d'abord et s'exclama « La Hinyadjan » qui veut dire en serrer. Quelle chose extraordinaire! Maïssa Wali leur précisa que c'est un être d'une noble ascendance. Dieu lui avait donné une vaste intelligence. Sa descendance régnerait sur de nombreux pays. Il recommanda beaucoup de respect et d'honneur pour cet être. Les émissaires revinrent Lucine et rendirent compte fidèlement des propos de Maïssa Wali. Ndiadjan parla alors. Il leur raconta son histoire quand il séjourna longtemps en ces lieux. Grâce à son intelligence et sa prestance, les gens du pays dirent « Un pays a besoin d'un homme de science, d'un homme de sagesse et de justice, mais faisons de lui notre chef. » Voilà comment les choses sont arrivées. Et les anciens disent que le Wallon n'avait pas encore de lignée maternelle princière. Le peuplement n'était pas très important. Comme Ndiadjan était très respecté pour son intelligence et sa prestance, d'une part, Maïssa Wali, un homme de savoir, lui avait prédit une brillante destinée. Ils décidèrent de faire de lui le chef qui rendrait la justice. Ndiadjan Ndiaye s'installa ainsi au Wallo, distribuant les terres et rendant justice. Et ses sentences étaient toujours justes. Ndiadjan fut ainsi le premier bras qui organisa le pays, le Seb Akbawar et les Kangam, c'est-à-dire l'assemblée élective et les dignitaires du pays lui firent confiance et il tint le pouvoir, en alliant sagesse et force. Il va réussir à regrouper et à souder les différents villages de la zone pour constituer un grand royaume. Un jour, Boubacar Barik, son demi-frère, vint le rejoindre au Wallo. Ndiadjan ne cohabita longtemps avec lui. Il le laissa au Wallo et partit vers le Djolof. Quand il arriva au Djolof, Ndiadjan Ndiaye y trouva des Mbeng et des Nyang. Il s'installa à Ndiayen Sagour et fonda ensuite Tcheng. Il épousa une femme appelée Oufa. Celle-ci est la mère de Gor Ndiadjan, qui est l'ancêtre de la noblesse Peul du Djolof. Il épousa ensuite Marem Ndoye Gueye, de la lignée des Bergueye, qui lui donna Sare Ndiadjan et Guette Ndiadjan. Guette Ndiadjan est l'ancêtre de tous les Diop du Kayor, du Djolof, du Wallo, du Sine et du Saloum. C'est le père de Guette Guette qui fondera la principauté de Guette au Kayor, qui est sous l'autorité de Barguette. Intronisé Bourba, Ndiadjan fera du Djolof un état suzerain. Intronisé Bourba, Ndiadjan fera du Djolof un état suzerain. Ses successeurs réalisèrent l'expansion du Djolof. À son apogée, l'Empire du Djolof dominait l'ensemble de la région, comprise entre les vallées du Sénégal et de la Gambie. Il recevait des tribus, des lamans chef traditionnel du Wallo, du Kayor, du Baol, du Sine et du Saloum. Les rites d'intronisation au Djolof, comme dans tous les autres futurs royaumes Wolof, Wallo, Kayor, Baol, Saloum, comportent entre autres le bain qu'on appelle Khouli Khouli, qui rappelle le séjour de Ndiadian Ndiaye dans le fleuve. Et aujourd'hui, personne ne peut prendre le pouvoir, personne ne peut avoir la légitimation sans entendre le fourré à Kelao. Personne ne peut dans le Djolof oublier la mémorable ligne de Ndiadian Ndiaye. Ndiadian d'où vient Albouri, Ndiadian d'où vient Bouna, Ndiadian d'où vient Leyti. Voilà l'histoire racontée de Ndiadian Ndiaye. Voilà l'histoire racontée de Ndiadian Ndiaye. Les anciens nous ont dit et nous vous avons dit. Les livres nous ont raconté et nous vous avons raconté. Khamsa Demb Khamsa Tey est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Cœur Leyti, la maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur professeur Ibrahim Awan, direction artistique, présentation et réalisation Dr Massamba Gueye, assisté de Abou Soumaré, Régis Ousmane Faye de la Factory. Technique Roland Sagnan, coordonnatrice du projet Bouyeufal Goethe Institut. Goethe Institut.